Chapitre 16. Le Marcus en Ford. Boston, Massachusetts. Lundi 12 juillet 2010. Le cabinet d'avocats Cooper et Associés occupait un hôtel particulier en briques rouges, juste derrière le Capitole du Massachusetts. Nous étions en plein quartier de Beacon Hill, où habitait Emma Matthews à l'époque de notre relation. Cooper et Associés était un bureau d'avocats pénalistes, connu pour plaider des dossiers épineux impliquant des personnalités, mais aussi pour défendre gracieusement des causes justes. Ils avaient récemment obtenu la libération d'un homme innocenté après 32 années de prison. Gal, Wood et moi patientâmes dans une salle d'attente tapissée d'articles de journaux vantant les nombreuses victoires remportées par le cabinet au fil des années. Une réceptionniste finit par venir nous chercher. « Maître Whitsmith va vous recevoir. » On nous conduisit dans un bureau meublé avec élégance où nous attendait une femme d'une quarantaine d'années, Patricia Whitsmith. Gal, Wood et elle n'avaient plus eu de contact depuis la conclusion de l'affaire. « Enfin !» lui dit-elle. « Il était temps que vous rouvriez l'enquête. Ça fait 11 ans que j'attends ce moment. » Nous prîmes place autour d'une table en verre où l'on nous servit du café italien dans des tasses en porcelaine. Patricia Whitsmith était habillée de façon simple, mais on devinait que son t-shirt était d'un créateur et que ses baskets valaient $400 la paire. Ses bijoux laissaient également entrevoir qu'elle gagnait très bien sa vie. Je ne pus m'empêcher de lui dire « Ah, je ne vous imaginais pas vraiment dans un cadre comme celui-ci. » Elle sourit. « Parce que je défends gratuitement Eric Donovan, vous imaginiez un bureau en sous-sol ?» Je bredouillais, gêné. En tout cas, pas ce genre de standing. « Ça a toujours été la philosophie de Sean Cooper, le fondateur de notre cabinet. Les convictions coûtent cher, il faut pouvoir les assumer. C'est justement parce que nous sommes un cabinet prestigieux, dont une partie de la clientèle a de très gros moyens, que nous pouvons défendre les plus démunis. « Et qu'est-ce qui vous a poussé à défendre Eric Donovan ?» demandai-je. « Son dossier est plutôt accablant. Difficile de prime abord d'y percevoir une erreur judiciaire. »« Ça, c'est votre avis. Je connaissais personnellement Eric. Quand on le connaît, on sait qu'il n'a pas pu tuer cette jeune femme. »« Comment l'avez-vous rencontré ?»« À Salem. À l'époque, nous fréquentions les mêmes endroits et nous avons sympathisé. C'était un garçon adorable, toujours de bonne humeur. » Quand mon couple s'est mis à battre de l'aile et que j'avais besoin de me changer les idées, je faisais le tour des bars avec lui. Puis il est retourné vivre à Mount Pleasant. Lorsqu'il a été arrêté, il a fait appel à moi. J'ai aussitôt eu l'intime conviction qu'il était innocent. Et comment expliquez-vous ce faisceau de preuves qui converge toutes vers lui ? Il a été piégé, affirma Patricia Whitsmith. Piégé par qui ? C'est ce que je n'ai jamais réussi à découvrir. Je n'en ai pas la preuve. Et je ne l'aurai malheureusement jamais, mais je pense que Walter Carré l'a piégé. Pourquoi ? Parce que Walter a toujours été jaloux d'Eric. Il pensait qu'Eric avait une liaison avec Alaska. Il a planifié le meurtre d'Alaska de façon à faire porter le chapeau à Eric. Ça aurait probablement fonctionné s'il n'avait pas planté sa voiture dans la forêt, permettant à la police de remonter rapidement sa trace.
« Navré de vous contredire, » intervint Galahoud. Mais deux arguments s'opposent à votre théorie. Tout d'abord, Alaska a quitté Walter Carré quelques heures avant d'être assassiné, ce qui ne lui laissait guère le temps d'orchestrer un tel piège. Ensuite, nous savons, et j'imagine que vous aussi, que Walter a un solide alibi pour le moment du meurtre.
Vous faites référence à la photo retrouvée par Lorraine, qui le situe au National Anthem à 1h43 du matin à la nuit du meurtre.
Oui.
Cet alibi ne tiendra pas 5 minutes devant un juge. Comme vous le savez, la mort d'Alaska Sanders a été estimée entre 1h et 2h du matin. Walter Carré aurait parfaitement pu l'assassiner autour de 1h du matin et être photographié ensuite à 1h43 au National Anthem.
Je n'avais pas pensé à cette éventualité. Je lançai un regard à Gal Wood qui ne scia pas.
Ça ne change rien au fait qu'Alaska venait d'annoncer à Walter qu'elle le quittait.
Objecta Gal Wood.
Il avait besoin d'un minimum de temps pour piéger Eric Donovan.
Je sais que Walter Carré soupçonnait Eric et Alaska d'avoir une liaison avant qu'Alaska ne le quitte.
Mais si vous parlez des soupçons que nourrissait Sally Carré, elle ne s'en est ouverte à son fils que lorsqu'il lui a annoncé qu'Alaska l'avait quitté. Votre raisonnement ne tient donc pas.
Walter était au courant bien avant cela.
Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ?
Patricia Whitsmith sortit d'une armoire un épais dossier, sa propre enquête sur la mort d'Alaska Sanders. Elle nous expliqua.
Ne le prenez pas mal, sergent, mais à l'époque, j'ai vite compris que l'enquête n'irait pas très loin. Vous aviez vos coupables, l'affaire était close. Alors j'ai dû me débrouiller. J'ai fait du porte-à-porte avec Lorraine. C'est comme ça que nous nous sommes liés toutes les deux et qu'au fil du temps, l'idée de monter une association a germé dans nos esprits. J'ai interrogé la moitié de la ville. Parmi les témoignages importants, j'ai recueilli celui de Regina Speck, la patronne du Season. Ce café charmant sur la rue principale, vous connaissez ?
Oui, acquiesçai-je. Patricia Whitsmith feuilleta son dossier jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait.
Sally Carré, la mère de Walter, s'était épanchée auprès de cette Regina Speck. Voilà, regardez, c'est ici. Elle, Sally Carré, vient tous les jours au café. Environ une semaine avant la mort d'Alaska, elle m'a confié qu'Alaska et Eric entretenaient une liaison. Elle les avait surpris à traîner ensemble en l'absence de son fils. Elle disait que son fils était trop naïf, qu'il s'en doutait sûrement, mais qu'il préférait être trompé que de se retrouver tout seul.
Patricia Whitsmith nous dit alors
« Si la mère de Walter Carré se répandait publiquement au sujet d'une liaison entre Alaska et Eric, elle avait forcément partagé ses soupçons avec son fils avant qu'Alaska ne le quitte. »
« Est-ce que je pourrais vous emprunter ce dossier pour y jeter un œil ?»
demanda Gaal Wood.
« Je vais demander qu'on vous en fasse une copie, » lui répondit Patricia Whitsmith. « Vous pouvez tout vérifier, c'est très facile. »
« Et si vous aviez des doutes sur le travail de la police à l'époque, pourquoi ne pas nous avoir alertés sur ces nouveaux témoignages ?»
Patricia Whitsmith hésita un instant avant de répondre.
« Les soupçons d'une liaison entre Eric et Alaska n'allaient pas vraiment dans le sens de mon client. »
Et donc votre théorie serait que Walter Carré a agi par jalousie. Il a tué Alaska et s'est arrangé pour piéger Eric ?
Absolument.
Je suis curieux de connaître vos arguments.
L'avocate étala devant nous différentes pages de son enquête. Il s'agissait là essentiellement des éléments à charge du dossier de police. Elle nous dit
« Walter pense qu'Alaska et Eric ont une liaison. Il souhaite se venger des deux, la tuer elle et le faire souffrir lui. » Il profite donc d'une partie de pêche pour récupérer un pullover appartenant à Eric. Il tient une première preuve contre lui. Puis, il adresse des messages anonymes à Eric et Alaska. « Je sais ce que tu as fait », sans doute pour les effrayer. Il jubile à l'idée qu'il flippe. Il pousse le vice jusqu'à imprimer ses messages chez Eric, ce qui est très facile puisqu'il est sans cesse fourré chez lui. Il sait qu'ainsi, Alaska morte, la police remonterait jusqu'à Eric. Je m'étonne que la police n'ait jamais considéré cette piste. Il y a là le mobile et l'opportunité, les deux éléments clés que les enquêteurs recherchent dans le cadre d'un meurtre.
Gaal Wood ne réagit pas, mais il affichait ce regard que je lui connaissais. Il était désarçonné. Patricia Whitsmith avait marqué un point. Celle-ci reprit.
Walter Carré étant mort, ma théorie est malheureusement impossible à vérifier. Mais il a quand même avoué le crime. On peut donc légitimement considérer qu'il a voulu entraîner Eric avec lui. Pas seulement à cause d'Alaska. Walter a été jaloux d'Eric toute sa vie.
Et Eric et Walter étaient pourtant amis, non ?
Sergent, n'avez-vous jamais été jaloux d'un de vos amis ? Eric et Walter étaient des copains d'enfance. Ils avaient grandi ensemble à Mount Pleasant. Pendant un temps, ils avaient été inséparables. Et puis l'âge adulte venant, les premières rancœurs arrivent. Eric va dans une bonne université, tandis que Walter végète. Eric vit à Salem, à un bon poste, tandis que Walter vit au-dessus du magasin de ses parents et travaille avec eux. Il se fait houspiller toute la journée par sa mère. Demandez à Mount Pleasant ce qu'il en était à l'époque, vous verrez. Et je sais de quoi je parle, car je les ai vus moi-même ensemble.
Eric et Walter ?
Oui, une fois, à Salem, dans un bar. Walter était venu rendre visite à Eric. À ce moment-là, déjà, leur rapport commençait à se distendre. Mais Eric ne refusait jamais à Walter de passer le week-end sur son canapé au nom de leur amitié d'enfance. Je le dis sans méchanceté, mais Walter était un peu lourdeau. Il se cherchait désespérément une copine. C'est comme ça qu'il a rencontré Alaska, d'ailleurs.
Vous-même, connaissiez-vous Alaska à Salem ?
Non, elle était sensiblement plus jeune que moi. À cet âge, ça fait une grande différence.
Est-ce que vous avez parlé avec Eric Donovan ?»«
Pas encore, » répondit Galloway.
« On peut aller le voir ensemble, si vous voulez, » suggéra Patricia.
« Volontiers. »
« Allons-y demain matin, si ça vous va. Je me rends à la prison de toute façon, car il y a la manifestation. »«
La manifestation ?» demanda Galloway. « Quelle manifestation ?»
Tous les deuxièmes mardis du mois, notre association Liberté pour Eric Donovan se réunit devant la prison d'État où Eric est détenu. C'est une suggestion que j'ai faite à Lorraine, il y a 2 ans, et ça fonctionne plutôt bien. Nous avons besoin de mobiliser l'opinion publique pour mettre en lumière le cas d'Eric et contribuer au réexamen de son dossier. C'est malheureusement un classique des erreurs judiciaires. Sans pression, les autorités ne font rien. Celui qui fera le plus de bruit aura une chance de sortir. Les autres crèveront en silence. Venez, ce sera l'occasion de vous rallier à la cause.
Nous agissons dans le cadre d'une enquête de police officielle, rappela Galloway. Nous ne prenons pas parti.
Voulez-vous savoir combien d'innocents croupissent en cellule aux États-Unis, sergent?
Vous ne pouvez pas vous abriter derrière quelques erreurs dramatiques pour discréditer tout le système judiciaire.
Quelques erreurs dramatiques? S'offusqua Patricia. Que diriez-vous si l'un de vos enfants était derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a pas commis? C'est à se demander de quel côté vous êtes, sergent.
Du côté de la justice.
Faites comme vous voulez. Je serai à la prison demain à 10 heures. Venez si vous désirez que je vous fasse rencontrer Eric.
En quittant le cabinet de Patricia Waitsmith, je m'efforçais de convaincre Galloway de la rejoindre à la prison le lendemain matin. Il me répondit par un sarcasme.
« Parce que votre copine Lorraine y sera ?»«
Parce qu'on doit parler à Eric Donovan, sergent. »«
Je suis policier, »
me fit-il remarquer.
« On peut le voir quand on veut, on n'a besoin de personne. » »«
Oui, mais si on est introduit par son avocate et sa sœur, il sera en confiance. Le but n'est pas tant de le voir que de le faire parler. »«
Vous n'avez pas tort, l'écrivain. » »«
Sergent, pourquoi n'avoir pas dit à Patricia Waitsmith que les aveux de Walter Carey avaient été extorqués ?»
Parce que j'ai d'abord besoin de savoir si elle est prête à envisager, au terme de notre enquête, la culpabilité de son client. Peut-on lui faire confiance, ou va-t-elle sauter sur mes confidences pour faire valoir un vice de procédure et nous faire comparaître devant un juge en qualité de témoin?
Nous marchâmes jusqu'à ma Range Rover. En arrivant devant, je demandai à Galloway.
Sergent, ça vous embête de prendre ma voiture et de rentrer à Concorde sans moi? Je vous y rejoindrai plus tard.
Il me dévisagea d'un air suspicieux.
« Qu'est-ce qui vous arrive, l'écrivain ?»«
Rien, sergent, juste une course à faire. »«
On peut la faire ensemble, si vous voulez. Ou alors je vous attends. Comment allez-vous rentrer jusqu'à Concorde ensuite ?»«
Je me débrouille, ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure. »
Je lui laissai les clés. Il n'insista pas. Je partis de mon côté et marchai jusqu'à une agence de location de voitures que j'avais repérée. En me présentant devant le comptoir d'accueil, je dis à l'employé, « Il me faudrait une Ford, vous avez ça ? Votre plus ancien modèle ?» Le seul modèle de Ford disponible à l'agence était du bas de gamme, ce qui correspondait exactement à ce que je cherchais. Une fois au volant, je sortis de ma poche le papier sur lequel Emma Matthews m'avait noté son adresse lors de mon précédent passage à Boston 15 jours plus tôt. Suivant les indications du GPS, je me rendis à Cambridge. De part et d'autre de la rue d'Emma, de jolies maisons parfaitement alignées et séparées par des jardins sans haies ni barrières. Je me garai discrètement à proximité du numéro 24. J'étais posté de façon à voir sans être vu. Au bout de quelques instants, je vis Emma apparaître, accompagnée d'une petite fille qui s'ébrouait sur le gazon. Elles jouèrent dehors un moment. Puis une voiture se gara dans leur allée. Un homme en sortit en complet cravate. L'enfant se précipita vers lui en criant « Papa ». Le papa embrassa la fille, puis il embrassa Emma. J'observai la petite tribu me nourrissant de ce tableau heureux. Je me demandais si je pourrais moi aussi être un jour un père de famille accompli. Soudain, la portière côté passager s'ouvrit. Je sursautai. C'était Galloway.
« Sergent, qu'est-ce que vous faites là ? Ah, vous m'avez fichu une de ces trouilles !»
« Permettez-moi de vous retourner la question, l'écrivain, »
me dit-il en s'installant sur le siège passager.
J'imagine qu'il y a une bonne raison pour que vous soyez dans cette bagnole de location à espionner cette famille. »
J'esquissais un sourire triste. J'essaie de me rappeler le Marcus en Ford, un jeune écrivain sans succès, mais plein de rêves et d'aspirations.
New York, début août 2005, 3 semaines avant la rupture avec Emma. Dans son bureau au dernier étage de la tour qui abritait le siège de Schmidt & Hansen sur Lexington Avenue, Roy Barnaski m'avait sorti le grand jeu. Champagne, petit four et des compliments à profusion. Mon agent, Douglas Claren, et moi étions assis face à lui autour d'une grande table en ébène. Devant moi, le contrat et un stylo. Il ne me restait plus qu'à signer. Mon tout premier contrat d'auteur. Barnaski avait adoré les premiers chapitres de mon livre et m'avait offert de me publier.
« Vous savez ce que signifie ce contrat, Marcus ?» me lança Barnaski. « De l'argent à ne plus savoir qu'en faire, parce que vous avez un don exceptionnel. Votre bouquin est merveilleux et j'ai le sentiment que les suivants seront encore meilleurs. »«
J'aime votre enthousiasme, » dis-je.
« Ce n'est pas mon enthousiasme qui compte, mais la production de votre poignet. Ce n'est que le début d'une longue aventure, Marcus. Il va falloir travailler dur. »«
C'est mon souhait le plus cher, » assurai-je. Barnaski désigna le contrat et en récapitula les termes.
« Une avance $1 million pour votre premier livre, qui vous sera versée à la remise du manuscrit en septembre. Vous vous engagez également pour 2 autres livres. Le suivant devra être terminé et livré avant le mois de juin 2008. »
« Je ne vous décevrai pas, » déclarai-je. Sur ces mots, je signai le contrat d'un geste allègre. Barnaski eut un sourire triomphal. Il se saisit de la bouteille de champagne, fit sauter le bouchon et remplit 3 coupes avant de déclarer
« À Marcus Goldman, la prochaine étoile de la littérature américaine !»
3 semaines plus tard, le 29 août 2005, j'achevais ma dernière relecture du manuscrit de G. comme Goldstein. J'avais terminé tard dans la nuit. Après quelques heures de sommeil, je sautai dans ma Ford et roulai d'une traite jusqu'à Aurora pour apporter mon texte à Harry.
« C'est un grand jour, » me dit ce dernier en contemplant le manuscrit posé sur la table de sa terrasse.
Nous étions dehors, profitant de cette matinée d'été. L'océan était d'un calme souverain. Sur la plage en contrebas, des mouettes allaient et venaient.
« Tout ça, c'est grâce à vous, Harry. »
Harry balaya aussitôt mes remerciements d'un geste de la main.
« Marcus, il n'y a qu'une seule personne à qui vous devez d'être un écrivain, vous-même. »
Il se leva, se saisit de sa boîte en fer souvenir de Rockland, Maine, et en sortit quelques morceaux de pain qu'il jeta aux mouettes. Cet après-midi-là, je devais rejoindre Emma à Boston et célébrer en sa compagnie l'achèvement de mon travail. Au moment de quitter Harry, alors qu'il me raccompagnait sur le pas de sa porte, je vis ma Ford minable garée à côté de sa Corvette rouge.
« Harry, lui demandai-je, est-ce que vous me prêteriez votre voiture quelques jours ?»«
Bien sûr, » me répondit-il sans hésiter une seconde. Je lui laissai ma Ford et repartis au volant de son bolide. Sur l'autoroute qui descendait vers le Massachusetts, j'éprouvais une sensation de légèreté. C'était comme si je laissais l'ancien Marcus derrière moi.
Emma, en revanche, fut beaucoup moins emballée lorsqu'elle découvrit la Corvette.
« Qu'est-ce que c'est que cette bagnole ?» me demanda-t-elle épouvantée.
« C'est pour aller dîner chez tes parents ?» répondis-je. Je ne plaisantais qu'à moitié.
« Arrête, Marcus !» s'agaça Emma. « Ça ne me fait pas rire. Qu'est-il arrivé à ta voiture ?»«
Ma Ford, c'est l'ancien Marcus. »«
L'ancien Marcus ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Maintenant que tu as écrit un livre, tu as l'intention de changer ?»
« Ce n'est pas moi qui vais changer, c'est le regard des autres. »
J'ignorais à quel point ma prophétie se révélerait exacte.
« Promets-moi que tu vas la rendre, » exigea Emma.
« C'est promis. Je dois retourner voir Harry dans quelques jours quand il aura lu mon manuscrit. »«
J'aime le Marcus qui roule en Ford, » insista-t-elle.
« Je sais. »
Harry avait promis de me donner des nouvelles de mon livre rapidement. Je ne me doutais pas qu'il allait m'appeler 24 heures plus tard et à une heure indue de surcroît. C'était le soir du 30 août 2005. Il était aux alentours de 22h30, j'étais étendu contre Emma à la caresser dans l'obscurité de sa chambre. Pour seul éclairage, les lumières de Boston qui filtraient par la fenêtre.
Nous étions allongés, mais encore habillés. Elle portait une jupe courte que je faisais glisser lentement sur ses cuisses. Soudain, mon téléphone, oublié dans la poche de mon pantalon, se mit à sonner. Je m'en saisis pour l'éteindre, mais je vis sur l'écran que c'était Harry qui appelait. « Qui est-ce ? » demanda Emma en voyant mon air circonspect. « Harry, tu le rappelleras demain ? » Pour qu'il essaie de me joindre à une heure pareille, ça doit être important. Le téléphone continuait de sonner. Je décrochai. Emma soupira et remonta sa jupe. « Allô, Harry ?»« Marcus. » Il avait une voix d'outre-tombe. « Harry, est-ce que tout va bien ?»«
C'est à propos de votre livre, Marcus. La situation est grave. J'ai découvert quelque chose qui me préoccupe. Je dois vous parler. Il faut que vous veniez à Aurora. »«
Maintenant ?»«
Oui, maintenant. »
Il ne semblait pas dans son état normal et je lui promis de me mettre en route aussitôt.
« J'arrive, je serai là dans 45 minutes. »
Je raccrochai. Emma me dévisagea avec inquiétude. « Que se passe-t-il, Marcus ?»«
Harry doit me parler de mon livre. »«
Quoi, maintenant ? Tu vas aller dans le New Hampshire en pleine nuit pour parler de ton bouquin ?»
Il a dit que c'était grave.
« Grave ? » s'emporta-t-elle. « Ce qui est grave, c'est de te tirer comme un voleur. Ton livre peut attendre demain matin. N'y va pas. »
« Désolé, Emma. Harry est un ami. Il avait l'air d'avoir besoin de moi.
Tu n'y vas pas pour Harry, tu y vas pour ton foutu livre. »
J'enfilai mon t-shirt et remis mes chaussures.
« Si tu passes cette porte !»
me menaça Emma hors d'elle.
« Quoi si je passe cette porte ?»« Si tu passes cette porte, cela veut dire que tu n'es plus le Marcus que j'ai connu.
Tu me connais depuis 5 mois à peine.
Si tu pars, Marcus, c'est fini. »
« Pour quelle raison ? Parce que je pars aider un ami ?»
Ce n'est pas à l'appel de Harry que tu réponds, mais à celui de ton ambition. Ton ambition sera ton pire démon. Elle va te consumer. Si tu ne peux pas la réfréner, je ne resterai pas avec toi.
Je m'en allai. Je n'allai revoir Emma que 5 ans plus tard, devant sa boutique de Cambridge, fin juin 2010.
Ce soir du 30 août 2005, il était presque minuit lorsque j'arrivais à Aurora. Je suivis Ocean Road, plongé dans l'obscurité la plus totale, puis j'arrivai à Goose Cove. La maison de Harry semblait éteinte. Ma Ford était cependant garée devant. Il était forcément là. Je frappai à la porte, mais n'obtins aucune réponse. Je me décidai à entrer. J'étais inquiet. Personne dans le salon. J'appelai. Aucun signe de vie. Je sortis sur la terrasse, et c'est alors que je vis une silhouette sur la plage qui contemplait un feu de bois. C'était lui. Je descendis le rejoindre.
Harry ? Il me dévisagea avec un drôle d'air. Oh, Marcus, vous êtes venu ?
Je compris à sa façon d'articuler qu'il était complètement ivre. Une bouteille de whisky traînait à même le sable. Il la ramassa et me la tendit. J'en bus une gorgée pour ne pas l'offenser. Je sentais mon cœur battre fort dans ma poitrine. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Que se passe-t-il, Harry ? Il me toisa de son regard vitreux, puis il me lança.
« Vous êtes plus qu'un simple écrivain, Marcus. Vous savez aimer. Je le sais, je l'ai lu dans votre bouquin. C'est une qualité rare. »
Je répétais encore ma question. « Que se passe-t-il, Harry ?»«
Nous sommes le soir du 30 août 2005, Marcus. Cela fait exactement 30 ans. »«
30 ans que quoi ?»«
30 ans que je l'attends. »«
Qui attendez-vous ?»
Il éluda ma question. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela fait lorsque quelqu'un disparaît soudain de votre vie et que vous ignorez ce qu'il est advenu de cette personne. Est-elle morte ou en vie quelque part? Pense-t-elle à vous comme vous pensez à elle?
Et je ne suis pas certain de comprendre, Harry.
C'est normal. Savez-vous garder un secret, Marcus? La difficulté avec un secret, ce n'est pas tant de le taire que de vivre avec.
Quel est ce secret?
Je ne peux pas vous le dire, Marcus. Vous seriez épouvanté.
Vous ne pouvez pas présumer de ma réaction.
J'ai trouvé le livre, Marcus.
Et quel livre, bon sang ?
Celui qui se trouvait dans la boîte à gants de votre voiture.
Il sortit de la poche arrière de son pantalon un exemplaire des Origines du Mal, son roman phare publié en 1976. Je ne pus m'empêcher de me demander si l'année 1975, celle qui revenait à la mémoire de Harry, avait un lien avec tout cela. Je reconnus immédiatement l'exemplaire qu'il tenait en main.
c'était celui que j'emportais partout depuis des années et que j'avais abondamment annoté. Il traînait sur le siège passager de ma Ford lors de ma venue à Aurora et je l'avais machinalement rangé dans la boîte à gants au moment d'échanger nos voitures. Je ne comprenais plus rien, et encore moins lorsque Harry jeta son propre livre dans les flammes. « Que faites-vous ? » protestai-je. Je voulus récupérer mon exemplaire, mais c'était impossible. Les flammes me brûlèrent les mains. Je ne pus que regarder le livre se consumer impuissant. Le visage de Harry en quatrième de couverture se tordit lentement avant de noircir et de disparaître. Relevant la tête, je vis le vrai Harry contempler son image brûlée. Il me dit alors, « Ce que je fais ce que j'aurais dû faire il y a 30 ans avec le manuscrit de ce foutu livre. Je voudrais que ce livre n'ait jamais existé. Vous allez avoir un immense succès, Marcus. Vous allez devenir l'écrivain que je n'ai jamais été. » Quelques mois après cette étrange soirée, j'utilisais une partie de l'avance versée par Barnaski pour me débarrasser de ma Ford et acheter une Range Rover noire. Harry était la première personne à qui je voulais montrer ma nouvelle acquisition. Mon premier trajet fut donc pour aller le rejoindre à Goose Cove. Il inspecta pendant un long moment la voiture flambant neuve que je venais de garer devant chez lui. Mais au lieu de me féliciter, il me dit « Tout ça pour ça, Marcus. Ces heures, ces années à écrire, cette rage de vivre couchée sur le papier, tout ça pour troquer votre Ford, qui roulait très bien, je le sais puisque je l'ai conduite à quelques reprises, contre une bagnole de luxe. Je ne vous blâme pas, Marcus, vous n'y êtes pour rien. C'est notre société qui fonctionne ainsi. Il n'y a plus que l'argent qui impressionne vraiment. Et puis vous savez, c'est le problème de tous les artistes. On les admire tant qu'ils sont méconnus, et quand ils réussissent, on les dédaigne car on découvre qu'ils sont comme tout le monde. Lorsque les traders qui font de l'argent avec l'argent dépensent de l'argent, personne n'est choqué, bien que nous les méprisions pour leur cupidité. Alors on attend des artistes qu'ils remontent un peu le niveau, qu'ils soient au-dessus de tout ça. Mais au fond, qu'un artiste qui gagne du pognon ait envie de le dépenser, c'est bien normal. Vous allez découvrir, Marcus, que le succès est une forme de maladie. Il altère le comportement. Le succès public, la célébrité, c'est-à-dire le regard que les gens portent sur vous, affecte votre conduite. Ils vous interdisent de vivre normalement. Mais soyez sans crainte, puisque le succès est une maladie comme les autres, il génère ses propres anticorps. Il se combat lui-même en son sein. Le succès est donc un échec programmé. Mon récit terminé, Gal Wood me dévisagea avec curiosité.
« Donc, le Marcus en Ford, c'est ce que vous seriez devenu sans le succès, c'est ça ?»«
Exact, » répondis-je.
« Et vous seriez plus heureux ?»«
J'en sais rien. »«
Mais vous aimez encore cette fille ?»
me demanda-t-il en désignant Emma au loin.
« Non, j'aime l'image idéale qu'elle incarne, comme a pu l'être ma tante Anita, ou même Hélène. »«
Arrêtez d'idéaliser l'écrivain. » Et passez à la pratique. Un couple ne coule des jours heureux que l'espace de quelques mois. Ensuite, c'est du travail, des compromis, de la frustration, des larmes. Et ça en vaut la peine parce que le résultat est une unité qui n'est pas due à de la chimie ou de la magie. Cette unité, vous l'avez construite. L'amour n'existe pas par lui-même, il se bâtit.
J'acquiesçais. Gale Wood me tapa sur l'épaule d'un geste fraternel.
« Allons rendre cette bagnole, » me dit-il, « et rentrons à la maison. »
« Je dois d'abord vous dire pourquoi je suis ici. »«
Pourquoi vous êtes ici en train d'épier ces gens, et vous venez de me l'expliquer ?»«
Non, sergent. Je dois vous avouer pourquoi je me suis lancé dans cette enquête. Il faut que je sois honnête avec vous, sergent. Je ne sais plus si je mène cette enquête en mémoire d'Hélène, ou pour libérer votre conscience, ou simplement et très égoïstement pour moi-même. » Parce que tant que je suis investi dans cette affaire, je n'ai pas besoin de penser à ma propre vie. Il y eut un long silence, au terme duquel Gale Wood se livra en retour.
Vous savez pourquoi je suis venu à votre hôtel hier matin?
Pour évoquer l'avancement de l'enquête, j'imagine.
Un dimanche matin, l'écrivain? Vous pensez que je n'ai pas mieux à faire, un dimanche matin, que de me pointer à Mount Pleasant pour papoter sur une enquête en cours?
Si. Répondis-je sans comprendre où il voulait en venir. « Vous avez probablement mieux à faire. »
Eh bien non, l'écrivain. La voilà ma réalité. Je n'ai plus grand-chose dans la vie, à part cette enquête, à part vous. Vous avez les filles ? Elles sont parties samedi matin pour 3 semaines de camp dans le Maine. Malia est monitrice, Lisa est participante. C'était prévu depuis quasiment 1 année. Elles tenaient à y aller. Et puis je pense que ça leur fera du bien de se changer les idées après tout ce qui s'est passé. Alors à mon tour d'être franc avec vous, l'écrivain. Sans cette affaire, je serais seul à me morfondre chez moi, à crever de solitude. Laissez-moi donc vous dire une bonne chose que je ne répéterai sans doute pas. Merci. Je souris. Il me sourit en retour. Puis il me dit encore « Allez rendre cette voiture et rentrons dans le New Hampshire. Sur la route, vous m'en raconterez davantage sur ce fameux Marcus en Ford. » Il n'y a rien de fameux, sergent. Galloway éclata de rire et leva les yeux au ciel. « Si vous n'existiez pas, l'écrivain, il faudrait vous inventer. » Je connaissais la prison pour hommes de l'État du New Hampshire pour y avoir rendu visite à Harry à plusieurs reprises pendant son incarcération durant l'été 2008. Aussi ce matin-là, en arrivant sur le parking visiteur, je fus traversé par un désagréable sentiment de déjà-vu.